الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو العشرون من شهر شعبان من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس السابع والثلاثين وهو الدرس الأخير من شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 5 mai 2018 et nous voici réunis pour le 37e et dernier cours de l'étude de cet écrit bénéfique العقيدة الواسطية. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à son auteur l'imam le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, ainsi qu'aux savants qui l'ont commenté. Ceci étant dit, nous nous sommes arrêtés, après avoir traité de la question de la croyance des gens de la sunna et de leur position face à ce que l'on appelle karamatul awliya, les prodiges des alliés, dont nous avons parlé lors de notre dernier cours. Enfin, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit donc: ensuite, fait partie de la voix des gens de la sunna et du regroupement أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة le fait de suivre les traces du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, intérieurement et extérieurement. Le fait de suivre le chemin des premiers précurseurs parmi les émigrés et les auxiliaires, et de se conformer à la recommandation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit « Tenez à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés » et bien orienté, cramponnez-vous-y et saisissez-la avec les molaires. Prenez garde aux choses innovées, car toute innovation, bid'a, est un égarement. En outre, ils savent que les paroles les plus véridiques sont les paroles d'Allah, et que la meilleure conduite est la conduite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils préfèrent la parole d'Allah à toute autre parole, de quelque catégorie de gens que ce soit. Ils font passer l'exemple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant l'exemple de quiconque. C'est ce pourquoi ils ont été appelés les gens du livre et de la sunna. Ils ont aussi été nommés les gens du regroupement, car le mot jama'a, qui a été traduit par regroupement, signifie al-ijtima', regroupement, rassemblement. Et son contraire est le mot « furqa » qui signifie le mot « division ». L'auteur, rahimahullah, a conclu son livre par quelques points importants et fondamentaux. Notamment ici, le fait de croire qu'il faut absolument suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, de façon apparente, mais aussi de façon intérieure. Et comme l'a noté le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, après avoir mentionné quelques points dogmatiques en relation avec la aqida, avec la croyance, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous montre ici la voie suivie par les gens de la sunna de manière générale dans la religion, que ce soit dans les fondements de la religion ou ses branches. Toutes ces choses par lesquelles les gens de la sunna se sont distingués de leurs opposants, se sont distingués de ceux qui suivent les innovations et qui contreviennent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première chose qu'il cita, rahimahullah, est le suivi des traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la méthodologie, la voie empruntée par lui-même, le fait de la suivre de façon apparente certes, mais aussi de façon intérieure, contrairement à ce qu'ont fait les hypocrites qui ne l'ont suivi qu'en apparence, alors qu'en réalité, leur cœur était vide de conviction, vide de foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, l'auteur a cité le fait de le suivre en apparence, mais aussi à l'intérieur, d'avoir la même croyance que lui, d'avoir la conviction que sa guidée est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voie du salut, la voie de la réussite. Ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est voulu par suivre ses traces, comme nous l'avons déjà dit, c'est suivre sa sunna. On ne veut pas dire par là, comme a noté le Cheikh Al-Fawzan, suivre les pas réels, suivre ses traces. Vous avez compris? Ce n'est pas ça qui est voulu. D'aller s'asseoir où il s'est assis, d'aller dormir où il s'est couché, etc. Non, ce n'est pas cela. Car cela en réalité est une cause pour tomber dans le shirk et dans l'exagération à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une voie que beaucoup de gens ont suivi malheureusement parmi les nations qui nous ont précédés. Également parmi les caractéristiques des gens de la sunna et du groupe, ils suivent la voie des pieux prédécesseurs, les premiers parmi les muhajirun, les émigrants qui ont quitté la Mecque parmi les compagnons pour se rendre à Médine, pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi al-ansar, les habitants de Médine qui les avaient accueillis et qui les avaient bien reçus. Ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné plusieurs faveurs, parmi lesquelles ils ont pris la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont assisté à la révélation et ils ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam la religion sans intermédiaire. Ils sont donc les gens les plus proches de la vérité et les gens les plus à même d'être suivis. Les plus proches de la vérité et les plus à même d'être suivis. Ils sont le deuxième degré après le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit, فأقوال الصحابة حجة يجب اتباعها إذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. Les paroles des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam radiyallahu anhum sont des paroles qu'il faut obligatoirement suivre s'il n'y a pas de texte du prophète même sallallahu alayhi wassalam. Alors les paroles des sahaba, des compagnons, doivent obligatoirement être appliquées et suivies. Pour quelle raison? لأن طريقهم أسلم وأعلم وأحكم. Car leur voie qu'ils ont suivie est la voie la plus scientifique, la plus juste, la plus sage, la plus préservée de toute faute et égarement. Et les savants précisent toujours cela, car certains parmi les égarés ont dit منهج السلف أسلم. ومنهج الخلف أحكم. La voie des salaf est plus prudente. Et la voie de ceux qui sont venus après eux, la voie des successeurs, est plus scientifique. Vous avez compris? C'est qu'après, il y a eu plus de science. Donc il y a, au niveau de la science, la voie des successeurs. Des choses ont été développées, comprises, etc. Mais la voie des salaf, des pieux prédécesseurs, est une voie qui est plus prudente. Alors, ils vont appliquer cela lorsque, par exemple, ils vont parler dans les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vous allez avoir l'Asha'ira qui vont interpréter, comme nous l'avons étudié, les mains d'Allah, le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis certains vont dire, il est clair que la voie des salafs dans ces questions est plus prudente. Il s'arrête là. La voie des salafs est plus prudente. C'est-à-dire, il est plus prudent pour toi de suivre ça. Cette parole-là est complètement fausse. C'est une obligation pour toi de suivre l'explication des salafs. Ce n'est pas plus prudent. C'est-à-dire que si tu as suivi l'autre voie, alors tu n'as pas suivi la voie la plus prudente. Tu n'as pas pris le plus de précautions. Non, tu t'es égaré. La voie des salafs est plus prudente, plus scientifique, plus sage, plus juste. C'est celle qu'il faut suivre. Celui qui suit une autre voie s'égare du droit chemin d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Cheikh al-Fawzan, « La kama yaqulu ba'du al-muta'akhirin » Non pas comme certains contemporains ont dit, « Inna tara inna tariqata salafi aslam » La voie des prédécesseurs est plus prudente. « Wa tariqata al-khalafi a'lamu wa ahkam » Tandis que la voie des successeurs est plus savante et plus sage. C'est faux de dire ça. Alors, il dit فَاتَّبِعُونَ طَرِيقَةَ الْخَلَفْ وَاتْرُكُونَ طَرِيقَةَ السَّلَفْ À cause de cela, ils suivent à la fin la voie des successeurs et délaissent la voie des prédécesseurs. Et cette parole est fausse. Également, parmi les caractéristiques que l'on retrouve dans ces quelques lignes, les caractéristiques des gens de la sunna, leur application de la recommandation faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le récit que beaucoup connaissent, le récit rapporté par le compagnon Al-Irbad ibn Sariya, que l'on retrouve chez l'imam Tirmidhi et autres, qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les compagnons au point de les faire pleurer. Il fit couler leurs larmes et frémir leur cœur. L'un d'entre eux lui dit, « Ô messager d'Allah, cela ressemble à une exhortation d'adieu. On a l'impression que tu nous fais le dernier appel avant de nous quitter. Donne-nous donc un conseil. Enjoins-nous quelque chose. » Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ses conseils importants. Parmi lesquels, justement, il leur a dit مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Ainsi, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque vivra parmi vous après moi témoignera ou verra de très grandes divergences. » فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Puis, il nous donne la solution et dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي Cramponnez-vous alors à ma sunna وَسُنَّتِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ Et la sunna de mes califes bien guidés الْمَهْدِيِينَ Orientés Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait part d'un problème qui atteindra sa communauté. Mais il nous donne la solution. Il nous explique que des divergences vont naître dans sa communauté. N'est-ce pas que nous les vivons, ces divergences? Quel est le refuge? Quel est le secours? Quelle est la voie pour être préservé de ces ignorances? Ne dors pas, écoute la voie qui te fait ramener à Allah tabaraka wa ta'ala? La réponse, c'est suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu anhum, particulièrement les quatre califes, que sont Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum. C'est dans leur voie qu'il y a le salut. Celui qui te dit que les successeurs ont acquis un très grand niveau de science avec les découvertes, les avancées, et ils ont une façon, une approche des textes qui est bien plus scientifique, wallah, il t'appelle au feu. Est-ce que tu as entendu? Il t'appelle au feu, volontairement ou non. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam ses hommes. Ils ont vécu avec lui. Ils ont assisté à la révélation. Quand le prophète alayhi salatu wa sallam tombait par la lourdeur de la révélation, ils étaient là. Et des pêcheurs contemporains vont nous expliquer la religion mieux que les pieux prédécesseurs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Addu alayha bin nawajid. Mordez-la cette voie par les molaires. Les savants, en expliquant ce récit, ont dit: c'est une allusion au fait que cette voie que tu suis, on va tout faire pour t'en égarer, pour te faire dévier de cette voie, à l'image de quelqu'un qui a mordu quelque chose que l'on essaie de lui arracher. N'est-ce pas qu'il va le mordre avec les dents les plus solides? Ici, le prophète alayhi salat wa salam dit: cramponnez-vous-y et mordez-la avec vos molaires. C'est-à-dire, ne lâchez pas cette voie-là. Ne lâchez pas cette voie. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et prenez garde aux nouvelles choses. Les nouvelles choses dans la religion. On ne parle pas des choses mondaines qui sont licites lorsqu'elles le sont. On parle des nouvelles choses dans la religion. Toute personne qui voudrait adorer Allah, se rapprocher d'Allah, rechercher des hasanat, des récompenses, avec une parole, une conviction, une action différente de ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, de ce qu'ils nous ont ordonné, de ce qu'ils ont fait, de ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a approuvé, alors ce hadith concerne ce genre de choses. Il nous dit: fa inna kulla bid'atin dalala. Car toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Contrairement à ce que certains ont dit, il existe de bonnes innovations. Et lorsque le prophète alayhi salat wa salam met en garde contre les mauvaises innovations, il parle des mauvaises, pas des bonnes. Puis ils ont été chercher des shubuhat, des ambiguïtés pour affirmer cela et justifier leurs innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fa inna kulla bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. Intahayna. L'affaire est close. L'affaire est indiscutable. Dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'existe pas quelque chose s'appelant bid'atun hasana, une bonne innovation. C'est complètement faux. Et Allah Azza wa Jal l'a démenti, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il nous recommande sallallahu alayhi wa sallam le suivi de ces quatre califes. Tout ce que ces quatre califes auront instauré entrera dans le cadre de la sunna. À titre d'exemple, comme l'a cité le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, à l'époque de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, est arrivé en retard à la prière du vendredi. Uthman, qui était alors le gouverneur, et donc celui qui prononçait le discours du vendredi, car le gouverneur à la base c'est l'imam, c'est celui qui prêche aussi, a remarqué le retard de Uthman, qu'il a blâmé, en lui disant: pourquoi es-tu arrivé en retard? Uthman radiallahu anh lui a dit, j'ai entendu l'adhan, l'appel à la prière, je me suis précipité pour aller faire les ablutions et je suis arrivé pendant le discours. Omar a rétorqué, en plus de cela, tu n'as fait que les ablutions, c'est-à-dire tu n'as pas fait le bain du vendredi. Cheikh Mohamed Aman al-Jami dit, c'est peut-être, wallahu a'lam, pour cette raison, que plus tard, lorsque Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, va devenir lui-même le gouverneur qui succède à Omar après son décès, que va-t-il se passer? Il va instaurer un deuxième appel à la prière le vendredi. Salatul Jumu'ah, la prière du vendredi. Et on va appeler à la prière pour annoncer la proximité de la prière et de la khutbah, pas le début. Ce qui permet aux gens éloignés de se préparer afin de se rendre à la mosquée et là, plus tard, d'écouter le premier appel, celui qui marque l'arrivée de l'imam sur le minbar. C'est peut-être pour cette raison, et Allah est plus savant, que Uthman l'a instauré. Après cela, les musulmans n'ont cessé de le mettre en pratique. Quelqu'un va-t-il dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas fait? La réponse sera de dire, ce prophète dont tu parles, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Dès lors que c'est le calife bien guidé qui l'a faite, alors tu as reçu l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire. Et si les califes bien guidés, qui sont les dirigeants des musulmans, estiment qu'il est bon pour l'intérêt des musulmans d'instaurer telle et telle chose, les musulmans doivent le suivre. Et ça rentre dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la sunna des califes est la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Également, parmi les caractéristiques des gens de la sunna et du groupe, la grande place qu'ils donnent au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils font passer le livre d'Allah devant toute parole. La parole du Créateur subhanahu wa ta'ala, ils la font passer devant toute chose, dans tout domaine, même dans les domaines de la vie. Lorsqu'ils disent « قال الله », ils ont la croyance que rien ne peut venir plus haut que cette parole, plus haut que cette phrase qui est « قال الله subhanahu wa ta'ala ». On ne répond pas à « قال الله » par tel géographe a expliqué que tel historien a dit que tel physicien a expliqué que tel grand docteur et grand chercheur a expliqué que. On ne répond pas avec ses paroles à la parole « قال الله ». C'est cela qu'il veut dire, notamment, rahimahullah ta'ala. Car ils savent et ont la conviction que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est la plus véridique des paroles. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا » et aussi « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا » et qui est plus véridique qu'Allah en propos? Qui est plus véridique qu'Allah en parole? Ils ont la conviction que la meilleure conduite dans la vie de tous les jours est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils préfèrent la parole d'Allah à toute autre parole, de même celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u al-rasoola wa uli al-amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa al-rasool. Ô vous qui avez eu la foi, obéissez à Allah et à son messager, ainsi qu'à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous, les dirigeants. Et si vous divergez dans une quelconque chose, peu importe la question, renvoyez-la à Allah et son messager. Renvoyez-la au Coran et à la Sunna. Vous y trouverez le moyen de résolutionner ce problème. Pour cette raison, ils ont été appelés Ahlul Kitab wa Sunnah, les gens du livre et de la Sunnah. Mais encore, Ahlul Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunnah et du groupe. C'est ainsi qu'ils ont été appelés. Le mot Jama'a, le groupe, est contraire au mot Furqa. Et Furqa, c'est la division. Les gens de la Sunnah sont unis. Mais sur quoi est-ce qu'ils sont unis? Ils sont unis sur les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont unis sur l'appel et l'application du tawhid et de la sunnah. Tout comme ils sont unis sur la mise en garde contre le shirk et contre la sunnah. C'est ça seulement l'union. L'union n'est pas celle du grand nombre ou des corps. L'union est celle de la voix d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que le noble Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, a dit « Al-jama'atu ma wafaq al-haq » Le groupe est ceux qui sont en conformité avec la vérité. « Wa in kunta wahdak » Quand bien même tu serais seul, c'est-à-dire à suivre la vérité, « Fa innaka hina idhin al-jama'a » C'est toi alors à ce moment-là le groupe. Dans l'islam, on n'entend pas par le mot groupe le nombre. On entend ceux qui suivent. Et si tu remarques dans le livre d'Allah, à chaque fois qu'il nous parle de la majorité, ce n'est que dans un contexte de blâme. La majorité des gens ne savent pas, la majorité des gens sont ignorants, la majorité des gens sont ingrats, la majorité des gens, si tu leur obéis, ils t'égareront du droit chemin, la majorité des gens sont pervers, la majorité. Chaque fois la majorité est blâmée dans le Coran. Et lorsqu'il y a des éloges qui sont faites, on retrouve très souvent la minorité. Et très peu sont-ils. Et ils sont peu. Et on le trouve beaucoup dans le livre d'Allah. Allah Azza wa Jal a dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et c'est cette division qui est interdite. Dès lors que la personne contredit la sunna, elle a provoqué la division. Certains disent, cessez donc d'appeler à ce tawhid, cessez donc d'appeler à cette sunna. Nous étions tous entre nous, chacun de nous s'aimait les uns les autres. Mais dès que ce nouvel imam ou ce nouveau prêcheur est arrivé, et qu'il a commencé à appeler à ce tawhid et à cette sunna, il nous a divisés. Donc pour eux, ce prêcheur est diviseur. Il apporte avec lui la division. C'est faux. Lorsque les musulmans ont délaissé le Coran et la sunna, et les conseils des prêcheurs au Coran et à la sunna, c'est là seulement qu'ils se sont divisés. Et pour prouver la division, on ne regarde pas le nombre en disant « Nous sommes là depuis tant d'années à faire ces pratiques, à avoir ces croyances. » Et lui arrive seul ou avec deux de ses amis et il veut nous diviser alors que nous sommes tous là depuis tant d'années à pratiquer la religion de telle façon. Alaykoum salam. Ces arguments sont faux. Ils n'ont aucun poids et aucune valeur. Car c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas qu'il est venu seul? N'est-ce pas qu'il est arrivé dans un peuple de gens qui commettaient le shirk? Il est arrivé seul et les appelait à l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ils se sont plaints de lui en disant « Farraqa jam'ana » Il a divisé notre groupe. C'est donc l'histoire qui se répète. Lorsque les gens appellent à la sunna, ils sont taxés de gens qui divisent, alors qu'ils se réjouissent, car ils ont suivi la voie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une division qui est bonne, qui doit être faite. Diviser le vrai du faux. Distinguer le vrai du faux. Le vrai ne doit pas être mêlé au faux. Le vrai doit être élevé. le faux rabaissé. Cette division-là, c'est l'union dont Allah a parlé dans le Coran. Subhanahu wa ta'ala. Il serait temps que les serviteurs d'Allah le comprennent et l'appliquent. Parmi les caractéristiques des gens de la sunna cités dans ces quelques lignes, le fait que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit ce qui va suivre. وَالْإِجْمَعُ هُوَ الْأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الْإِخْتِلَافُ وَانْتَشَرَ فِي الْأُمَّةِ. L'auteur, rahimahullah ta'ala, continue dans ce paragraphe et dit le consensus, ce que l'on appelle en arabe al-ijma', le consensus est le troisième fondement sur lequel on se fonde, on se base dans les domaines de la connaissance et de la religion. Il y a d'abord le Coran. Le Coran est une preuve. Il y a ensuite la Sunna. La Sunna est une preuve. Quelle est ta preuve? Il te répond قال الله. Ou alors قال رسول الله. Il y a une troisième preuve. On l'appelle al-ijma', le consensus. Et lorsque l'on dit le consensus, c'est le consensus des pieux prédécesseurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa communauté ne réalise pas un consensus dans l'erreur. Les sahaba, s'ils sont unanimes dans une question, il est impossible que cette question soit une erreur. Car ils sont ceux qui ont vécu avec lui, alayhi salatu wa salam. Et s'ils sont unanimes dans la question, ce n'est que parce qu'ils l'ont suivi, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le troisième fondement, la troisième source, al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', le consensus. Le consensus, celui des pieux prédécesseurs, est le troisième fondement sur lequel on se fonde dans les domaines de la connaissance et la religion. Quelle est ta preuve? Il te répond, Ijma' al-Sahaba. Le consensus des compagnons. Tous les compagnons ont été d'accord. Cela est suffisant pour être une preuve. Il jauge à la lumière de ces trois fondements, le Coran, la Sunna, le consensus, toutes les paroles et les actions des gens, cachées ou apparentes. Lorsqu'il voit des actions dans la religion, des paroles, lorsqu'il voit des convictions auxquelles les gens appellent, ils reviennent au Coran. Ils reviennent à la sunna, ils reviennent au consensus des compagnons. S'il n'y a pas cela, alors cette chose est fausse. De ce qui a un lien avec la religion, le consensus, al-ijma', celui qui est effectif, lequel? Est-ce que on entend par là le consensus des savants qui sont venus après? Ça serait trop dur. Car ça serait trop difficile à prouver tellement il y a eu des savants dispersés dans la terre d'Allah. Comment être sûr que tous les savants de ces époques, de ces terres, de ces endroits, de ces pays sont d'accord sur la question? Donc lorsque l'on dit al-ijma', le consensus, on parle des sahaba, on parle des salafs. Parce que à l'époque des salafs, il était beaucoup plus facile d'être sûr qu'ils sont tous d'accord du fait qu'ils n'étaient pas encore éparpillés partout dans la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ce consensus-là que l'on peut, entre guillemets, maîtriser, que l'on peut déclarer, celui qui est effectif, à celui qui existait entre les pieux prédécesseurs, puisqu'après eux, les divergences se sont multipliées et la communauté s'est dispersée. Dès lors qu'elle s'est dispersée, dès lors que les divergences se sont multipliées, comment prouver que toute la communauté est d'accord sur une question? C'est bien trop difficile pour le faire. Pour cela, l'auteur, rahimahullah, montre que le consensus effectif, c'est celui des salafs, notamment les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. C'est donc sur ces trois fondements que se basent les pieux prédécesseurs. Et après les pieux prédécesseurs, comme le dit le Cheikh Al-Fawzan, Al-Ijma'u la yandabit. Il est très difficile de maîtriser la question du consensus pour deux raisons. La première, kathratu l'ikhtilafi bihaythu la yumkinu l'ihatatu biaqwalihim. Il y a tellement eu de divergences après eux qu'il est difficile d'être sûr de réunir toutes leurs paroles pour en déduire qu'il y a consensus dans la question. Deuxièmement, intisharu l'ummati fi aqtari l'ard. La propagation de la communauté musulmane sur toute la terre. Donc ça deviendra beaucoup trop difficile. Il est donc impossible de dire il y a consensus après cette époque-là. C'est bien trop difficile. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, dit « Thumma hum ma'a hadhihi l'usul » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. D'autre part, en plus de ces fondements, ils ordonnent le bien et interdisent le blâmable, conformément à ce qu'exige la législation d'Allah. Ils reconnaissent qu'il faut accomplir le hajj, notamment les prières du vendredi, les prières des fêtes, l'Eid, avec les chefs, les gouverneurs musulmans, qu'ils soient pieux ou non, qu'il soit pieux ou pervers. Il veille à accomplir les prières en commun et pratique comme un acte religieux le bon conseil, an-nasiha, envers la communauté. Ils adhèrent à la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant pour le croyant est comme une construction dont les parties se renforcent mutuellement. Et il entrecroisa ses doigts. Sallallahu alayhi wa sallam. Et son autre parole, les croyants, par leur amour partagé, leur compassion mutuelle et leur affection réciproque, sont comparables à un corps humain, dont si un membre est endolori, il ressent une douleur, c'est tout le corps qui se solidarise avec lui par la fièvre et l'insomnie. Ils ordonnent la patience lors du malheur, la gratitude, shukr, lors de l'aisance et l'acceptation du destin douloureux. Ici, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, après avoir traité la question dans tout ce livre de la croyance des gens, de la sunna et du groupe, al-aqida, va passer à tout ce qui relève du domaine comportemental, du comportement, des bons caractères. Pour quelle raison ? Parce que toutes ces choses-là découlent de la bonne croyance. Celui qui a la bonne croyance va avoir de surcroît automatiquement un bon comportement. Et en fonction de sa bonne croyance et de son amélioration, son comportement va suivre. En réponse à ceux qui ont dit, en dénigrant les gens de la sunna, en disant, ces gens-là ne font que parler de tawhid, de aqidah, de croyance, mais si tu veux être dans la sunna, ce qu'il faut c'est le bon comportement. Ou alors ceux qui ont dit, avant toute chose, le bon comportement. Ou alors, ceux qui ont dit, celui que tu vois commettre un grand péché alors qu'il prétend être dans la sunna, alors qu'il sache qu'il n'est pas dans la sunna. Et toutes ces paroles-là, visant en réalité à faire fuir les gens de l'apprentissage du tawhid et de la sunna, car l'apprentissage du tawhid et de la sunna éveille les gens et leur montre que ces gens-là sont égarés. Alors, au lieu de dire « n'apprenez pas le tawhid, n'apprenez pas la sunna », ils vous disent « l'important c'est le bon comportement, c'est de sourire aux gens, c'est de sourire aux voisins, etc. » Et à quoi va te servir ce sourire si tu commets le shirk, si tu innoves dans la religion d'Allah, si tu arrives le jour dernier avec les innovateurs qui voudront boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à qui les anges diront « éloignez-vous, allez-vous-en ». Est-ce que ton bon sourire ce jour-là te sera utile? Avant tout, c'est la croyance. La da'wa des gens de la sunna, la da'wa salafiyya, c'est l'appel au tawhid et l'appel à la sunna. Et la conviction que la compréhension du tawhid et de la sunna automatiquement appelle au bon comportement. Méditez un peu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans de nombreux hadiths, il rattache les bons comportements à la foi en Allah au jour dernier. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui a foi en Allah et au jour dernier, falyukrim daifa, qu'il honore son invité. Qu'il honore son invité. Honorer l'invité est un bon comportement qui découle de la bonne foi en Allah et au jour dernier. D'abord, travaille ta foi en Allah et au jour dernier. Et tu verras que le reste, bi'idhnillah, va suivre. Alors que ces comportements basés sur aucune aqida, sur aucune croyance, ne sont que du vent. Ne sont que du vent. Et les gens qui appellent au bon comportement, tout en négligeant l'appel au tawhid, sont des prêcheurs à l'égarement. Et leur da'wa va faire faillite. Et elle va disparaître. Car ils n'ont pas dirigé les cœurs des gens vers le Créateur. Ils ont dirigé les corps des gens vers d'autres corps. C'est tout ce qu'ils ont fait. Mais les gens de la Sunna, eux, donnent la plus grande importance à la Aqidah. Mais ils donnent aussi l'importance au bon comportement. Et c'est ce qu'a voulu montrer l'auteur, rahimahullah ta'ala. Lorsque l'on dit qu'on appelle et qu'on concentre le prêche sur le Tawhid, sur la Sunna, cela veut-il dire qu'on néglige le comportement? Non. L'auteur a mis un chapitre ici pour appuyer cela. Et donc, ils sont la meilleure des communautés. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Vous êtes la meilleure communauté que l'on ait fait surgir pour les gens. « Ta'muruna bil ma'ruf » Car vous ordonnez le convenable. وَتَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ et interdisez le blâmable. Une phrase, quelques mots nous intéressent particulièrement ici. L'auteur a dit, ils ordonnent le bien et interdisent le blâmable. Est-ce qu'ils le font comme ils veulent? Non. Il dit, عَلَى مَا تُوْجِبُهُ الشَّرِيعَ conformément à ce qu'exige la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu veux appeler un bien, lorsque tu veux interdire un mal, tu ne le fais pas comme bon te semble. Combien de gens ont voulu ordonner le bien, ont voulu interdire le mal, et ils n'ont fait que le mal. Ils n'ont fait que casser le bien, car ils ne l'ont pas fait à la manière prescrite par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il fait allusion, comme a dit le Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, au récit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, man ra'a minkum munkara, quiconque parmi vous assiste ou voit un mal, man ra'a minkum munkara, falyughayyirhu biyadihi, qu'il le change de la main, par sa main, physiquement. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ S'il ne peut pas, par sa langue. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ S'il ne peut pas, par le cœur. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ Et c'est le minimum de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, a dit « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ » Quiconque voit parmi vous. Il n'a pas dit quiconque cherche parmi vous. Car il y a des gens qui cherchent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'a pas demandé de chercher. Il te demande de faire ta vie. Mais si dans ta vie, tu assistes à un mal, alors tu interviens de la façon suivante. Premièrement, tu le changes de ta main, par ta main. Les gens concernés sont les détenteurs de l'autorité. Que ce soit à petite échelle, le père de famille chez lui, le directeur de la société au sein de son entreprise, le responsable dans son domaine. Ces gens-là, ils ont un dépôt. Et si un mal se produit chez eux alors qu'ils sont chefs de famille, alors qu'ils sont détenteurs de l'autorité dans ce domaine, plus ou moins petit ou grand, ils doivent intervenir de leurs mains et arrêter cette chose. Le père voit son fils consommer ce qu'Allah a interdit, il doit l'arrêter de sa main et lui enlever. Mais est-ce que cela est permis à grande échelle, c'est-à-dire que l'individu de la masse des musulmans commence à ordonner le convenable et interdire le blâmable physiquement, il voit des gens boire l'alcool, il leur arrache de la main, il voit des gens toucher à des choses interdites, il les prend, il les casse. Cela est interdit. C'est le détenteur de l'autorité qui le fait. Seulement. Donc à grande échelle, le dirigeant, le gouverneur. Le gouverneur est celui qui a ce rôle d'interdire le mal et de condamner le mal. Il n'appartient pas aux musulmans de la masse d'aller, comme ils le disent, d'aller faire rétablir la justice. Suite à une injustice, par exemple, dont a été victime quelqu'un, ils forment un groupe et ils vont régler les comptes. Ça n'existe pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que font beaucoup de gens ayant la mauvaise compréhension de la religion d'Allah. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, s'il ne peut pas le faire, فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ Alors, de par la langue, en prodiguant le conseil, en disant « Crains Allah, tu n'as pas le droit de faire ça. » S'il ne peut pas le faire par la langue, il craint des éventuelles représailles, ou il n'est pas en position de parler, ou toute autre chose, « فَبِقَلْبِ » qu'il déteste par son cœur, car c'est le plus bas degré de la foi. Tu es dans un endroit où des interdits sont commis. Tu ne peux pas agir physiquement, car tu n'as pas l'autorité. Deuxièmement, tu ne peux pas parler. Tu n'es pas en position de parler. Alors, tu dois le détester de ton cœur. Mais tu dois quitter cet endroit aussi. Et si tu ne peux pas quitter cet endroit, alors à ce moment-là, tu détestes cette chose-là avec ton cœur. Et ça, c'est le plus bas degré. C'est le minimum requis de la foi dans cette situation-là. Et pour plus de détails, je vous invite à écouter une conférence que j'avais donnée, intitulée justement « Ordonner le convenable et interdire le blâmable », où il y a les règles sur la façon de faire, données par les savants. Puis l'auteur, rahimahullah, a montré la question de rester derrière les autorités et de ne pas les devancer. Dans les domaines de la vie, d'accomplir la prière derrière eux, s'ils sont imams. Tu es dans un pays musulman, le détenteur de l'autorité, le plus haut gouverneur, le président ou le ministre ou le responsable, etc. C'est ça qu'on entend par le détenteur de l'autorité. Tu dois lui obéir dans l'obéissance à Allah. S'il te demande quelque chose qui est interdit, alors tu lui désobéis. Mais dans tout le reste, tu lui obéis. Tu pries derrière lui s'il est imam, même s'il est pécheur. Et à l'époque des salafs, il y a des histoires où quelqu'un ou certains parmi les pieux prédécesseurs priaient derrière un imam qui avait consommé de l'alcool et qui était quelque peu ivre. Mais il était le détenteur de l'autorité. Son péché lui incombe. Son péché est sur son dos à lui. Mais est-ce que moi, qui est sous son autorité, j'ai le droit pour cette question-là, pour cette raison-là, de me détacher de lui? Non, les salafs n'ont pas agi ainsi. Celui qui agit ainsi a fait une bid'a dans la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Les salafs priaient derrière ces gens-là, au point où cet imam s'est retourné. Elle leur a dit, vous voulez que je vous rajoute une raka'a? Il était ivre. Vous voulez encore une autre raka'a? Et les salafs l'ont vu qu'il était ivre, ils ont pris derrière lui, ils n'ont pas recommencé leur prière. Il y a plein de choses comme ça que les gens ne connaissent pas. Pareil pour la prière du vendredi. Il vient à la mosquée, il voit que celui qui prononce le discours est un innovateur, mais pas un mouchrik, pas un polythéiste, un innovateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il sort, il part. Il vient tomber dans une bid'a. Il a innové dans la religion d'Allah. Car les salafs n'ont jamais fait ça. Les salafs ne faisaient pas ça, plutôt. Les salafs, na'am, ne faisaient pas ça. Les salafs au salih, il prie derrière l'imam. Son péché, il est pour lui. Par contre, si c'est un mouchrik, il ne prie pas derrière lui. Ainsi, les gens de la sunna ont cette conviction qu'il faut être derrière l'autorité. Et qu'il faut prier derrière lui. Qu'il soit pieux ou pervers. Peu importe. Car c'est ainsi que nous l'a ordonné le prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit وَلَعَلَّهُ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ طَائِفَةٌ خَرَجَتْ عَلَى ذِي سُلْطَانِ إِلَّا وَكَانَ فِي خُرُوجِهَا مِنَ الْفَسَادِ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي فِي إِزَالَتِهِ. À travers l'histoire, on ne trouve pas un groupe ayant exprimé sa rébellion envers le détenteur de l'autorité sans qu'il n'en découle beaucoup plus de mal que ce qui existait déjà lorsqu'ils étaient sous ses ordres. Wallahi, hadha ilm al-ulama. Ça, c'est la science des savants. Quand les savants de la sunna disent aux musulmans « arrêtez », toutes ces révoltes, et vous leur donnez des noms enjolivés par Shaitan, printemps arabe. Quel printemps? La tempête. La tempête arabe. Subhanallah. Regardez tous ces morts. Regardez tout ce mal. N'est-ce pas que le mal qu'ils vivaient, ces gens-là, avant qu'ils ne vivent ce mal, était moindre? C'est ainsi que dit l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et ça c'est la croyance des gens de la sunna, l'interdiction de la révolte. Et en cela, ils contredisent les khawarij, qui eux n'hésitent pas à inciter les gens à se révolter contre les détenteurs de l'autorité. Et parmi les khawarij de cette époque, il y a les frères musulmans. Ce sont des khawarij en cravate et en costard. La seule différence, c'est qu'ils taillent leur barbe et qu'ils portent des costumes. Mais en réalité, ils ont exactement les mêmes auteurs, les mêmes ouvrages, les mêmes références que les khawarij qui commettent des attentats. Qu'Allah nous préserve de leur mal. Et ils se font passer pour des gens sages. Car leur but à eux, c'est la politique et la chaise. La dunya. C'est ce qu'ils veulent. Pas le tawhid. Pas la sunna. Pour eux, insulter les sahaba, ce n'est pas grave, tant que tu ne m'empêches pas d'atteindre mon but. Qui est quoi? Courir derrière la dunya, même si le prix est de vendre ta religion. A'udhu billah min ad-dalal. Qu'Allah nous préserve de leur égarement. Ils ont fait tellement de mal à la communauté. Wa yuhafidhuna 'ala al-jama'at. Et ils préservent les prières en groupe. Les gens de la sunna ont pour croyance qu'il faut prier en groupe. Les hommes ont l'obligation de prier en groupe. Que ce soit les cinq prières, ou alors la prière du vendredi. Il ne la délaisse pas. Contrairement à qui? Khilafan li shi'a, ou shi'it, comme dit le Cheikh al-Fawzan. Alladhina la yarawna illa as-salata illa ma'al imam il-ma'soum. Eux, ils ne voient l'obligation de la prière en groupe que derrière ce qu'ils appellent l'imam infaillible. Ils ont des imams pour eux qui sont infaillibles, alors que seul le prophète l'est. Pas même les sahaba, radiyallahu anhum. Eux, ils ont des shayatines, derrière lesquels ils ont l'obligation de prier en groupe. Wa khilafan lil munafiqin. Et contrairement aussi aux hypocrites qui s'absentent dans les prières en groupe. Qui s'absentent non pas parce que ils ont manqué ou alors ils ont été en retard, parce qu'ils détestent, ils ne veulent pas y aller. On ne parle pas de celui qui est fainéant, qui a quelques manquements qu'il doit corriger. On ne parle pas de ça, on parle de munafiq, de l'hypocrite. Également, les gens de la sunna prodiguent le conseil à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils croient en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque dans les deux hadiths il nous dit, sans se rapprocher des récits, le croyant pour le croyant est comme une construction dont les parties se renforcent mutuellement. Et il entrecroisa alors ses doigts. Également, les croyants, par leur amour partagé, leur compassion mutuelle et leur affection réciproque, sont comparables à un corps humain, dont si un membre est endolori, c'est tout le corps qui se solidarise avec lui par la fièvre et l'insomnie. Vois-tu un peu l'état que tu as lorsque tu es atteint d'une douleur au bras, à la jambe, tu ne trouves plus le sommeil, et alors une fièvre t'atteint. Et c'est tout ton corps qui devient malade. Alors qu'à la base, c'est à cause d'une douleur dans un membre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsqu'il y a un mal qui atteint un membre de la communauté, tout le corps de la communauté le ressent. Tout le corps de la communauté le ressent. Et ce qui est voulu par l'image du croyant, c'est-à-dire le croyant à la foi complète, car seul le croyant à la foi complète, et plus sa foi se complète, plus il ressentira cela, et éprouvera pour son frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, ses sentiments d'affection, d'amour et de compassion à l'égard de leur frère. Et alors tu les verras souriants, non pas renfrognés, non pas pleins de haine, pour des raisons invalables ou non valables. Il y a des gens, des fois, sans raison, ils te détestent. Là, on aime pour Allah. On déteste pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas pour le visage, pour la tête, pour l'origine, ou parce qu'il est aisé alors que l'autre est pauvre. Je vais plutôt avec celui qui est aisé et délaisse celui qui est pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mathalul mu'mini lil mu'min » Le croyant envers le croyant. Cheikh Mohammed Amal al-Jami, rahimahullah, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit le croyant envers celui de son pays, celui de son origine, le croyant envers le croyant. Le croyant envers le croyant. Donc le sens de ce hadith est immense. Également, les gens de la sunna ordonnent la patience lors de l'épreuve, la reconnaissance à Allah lors du bienfait et l'acceptation du décret douloureux qu'Allah a décidé, subhanahu wa ta'ala, car ces trois choses-là font le bonheur de la personne. Et le fait de demander le pardon d'Allah lorsque l'on commet un péché, de remercier Allah lorsqu'il nous donne un bienfait, et enfin, de patienter lors de l'épreuve. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que ces trois choses-là réunies forment le bonheur de la personne. Parce que dans sa vie de tous les jours, elle ne se détache pas d'un péché, d'un bienfait ou d'une épreuve. Forcément. Quand elle commet un péché, elle demande pardon. Quand elle est éprouvée, elle patiente. et quand elle a un bienfait, elle remercie Allah. Alors, elle sera heureuse dans cette vie d'ici-bas. L'auteur, rahimahullah, conclut et dit: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. Ils appellent aux nobles qualités morales et aux belles œuvres. Ils adhèrent au sens de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants dont la foi est la plus complète sont ceux dont les mœurs sont les meilleures. Les mœurs, les façons de se conduire, les comportements, la façon d'être avec l'autre. Le adab. Ils incitent à ce que tu maintiennes les relations avec ce qui a rompu avec toi. Que tu donnes à qui t'a privé. Et que tu pardonnes à qui t'a fait du tort. Ils ordonnent la bonté envers les deux parents, l'entretien du lien de parenté, le bon rapport de voisinage, la bienfaisance envers les orphelins, les pauvres et le voyageur. Ils condamnent la vanité, l'orgueil, l'agression et l'arrogance envers les gens, que ce soit à bon droit ou injustement. Ils exhortent à avoir des mœurs sublimes et réprouvent celles qui sont détestables, viles. Tout ce qu'ils disent ou font de ceci ou autre, ils ne le disent et ne le font qu'en conformité avec le Coran et la Sunna. Même dans le domaine des comportements et des caractères, ce qu'ils font est basé sur des preuves du livre d'Allah et de la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et de manière résumée, il y a l'appel au bon comportement. Au bon comportement envers les gens qui sont autour de toi. Et tu ne peux pas vivre isolé, seul. Tu es obligé de vivre avec des gens qui t'entourent. Et dans ces gens qui t'entourent, tu ne peux pas avoir que des gens bienfaisants envers toi. Tu vas obligatoirement rencontrer des gens qui vont te nuire. Physiquement peut-être, qu'Allah t'en préserve. Verbalement, on va porter atteinte à ton honneur, on va dire que tu es un menteur, on va dire que tu as fait telle et telle chose. Ça fait partie du décret d'Allah qu'il faut endurer. L'essentiel, c'est de t'élever dans tes bons comportements et ne pas te rabaisser pour répondre à ce qui est bas, mais plutôt rester haut. Par exemple, le fait d'entretenir les liens avec celui qui les a rompus avec toi. Le fait d'entretenir les liens de parenté. Si quelqu'un parmi tes proches parents, a rompu ses liens avec toi, qu'est-ce que tu vas dire? Puisqu'il a rompu ses liens avec moi, à moi aussi de les rompre, jusqu'à ce que lui revienne, comme beaucoup le font, et à la fin des dizaines d'années qui passent, sans que deux frères ne se parlent, sans que deux sœurs ne se parlent, sans que des cousins, des oncles et tantes et autres ne s'adressent la parole à cause de cet orgueil. Les gens de la Sunna disent, celui qui rompt les liens avec toi va les entretenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam, le meilleur de deux est celui qui commence à saluer l'autre, en parlant de la discorde entre deux frères parmi les musulmans. Parmi les musulmans qui ont une discorde mondaine, mondaine. Pas quelque chose de la religion. Il innove dans la religion d'Allah, je ne lui parle plus. Ça fait partie du din. On parle de mondain. on s'est disputé pour un service que je devais te rendre, je ne t'ai pas rendu, un rendez-vous, je n'y ai pas été, tu n'y as pas été, une mauvaise interprétation de parole, tu es passé avant moi alors que c'était à moi de le faire, tu as pris ma place, tu as pris ma part, et on ne se parle plus pendant des années. Les gens de la Sunna disent qu'il faut entretenir le lien avec celui qui l'a rompu avec toi. Et que tu pardonnes à celui qui t'a causé du tort. Celui qui t'a causé du tort dans tes biens, dans ton sang, dans ton honneur, tu lui pardonnes. Et cela va le pousser à t'aimer. Et combien de gens, en ayant pardonné, se sont fait aimer après? Des gens qui leur ont fait de l'injustice. Les gens de la Sunna ordonnent aux gens d'obéir aux parents, le père et la mère, qui ont été cités dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala après le tawhid, qui est le droit d'Allah. Après le droit d'Allah vient le droit des parents, comme on le trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après les parents, les gens proches de la famille. Également, le bon voisinage, la bienfaisance envers les orphelins, envers les pauvres, envers les voyageurs dans le besoin. Toutes ces choses-là, il y a des récits. Il y a des versets et des hadiths. Mais l'auteur résume, rahimahullahu ta'ala, ils interdisent les gens de la sunna, l'orgueil, le fait d'être injuste envers les autres, l'orgueil qui te pousse à refuser la vérité et à rejeter les gens. Les gens de la sunna l'interdisent, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Quand le compagnon est venu, il lui a dit, moi, je m'habille bien, je pensais que c'était ça l'orgueil. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a expliqué qu'il ne s'agissait pas de cela, mais que plutôt, il s'agissait du fait de rejeter la vérité et de rejeter les gens. Ça, c'est l'orgueil. Tout comme ils interdisent l'injustice et le fait de mépriser les gens. Le fait de mépriser les gens de manière injuste, le fait d'avoir les mauvais comportements, tout cela, les gens de la sunna l'interdisent. Et tout ce qu'ils font, ils ne le font qu'en suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela est réuni et résumé dans un verset de sourate An-Nisa, où Allah Azza wa Jalla a dit « Wa'abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a » et adorez Allah et ne lui associez rien. Ça c'est le droit d'Allah. « Wabilwalidayni ihsana » ayez de la bonté envers les parents, le droit des parents. « Wabidil qurba » les gens proches. « Waliyatama » les orphelins. « Walmasakin » les pauvres. « Waljari dil qurba » waljari il junubi » wassahibi bil jambi wabinis sabil » jusqu'à la fin du verset. Ça résume tout ce qu'a dit l'auteur, rahimahullah ta'ala. Ensuite, l'auteur a dit, وَطَرِقَتُهُمْ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Leur voix est la religion de l'islam avec lequel Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que sa communauté se diviserait en 73 groupes qui seront tous au feu sauf un seul, qui est la Jama'a, le groupe uni, décrit en ces termes dans un hadith prophétique où il a dit « Ce sont ceux qui sont dans une voie identique à celle sur laquelle je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. » Il s'ensuit alors que ceux qui s'attachent réellement à l'islam pur et exempt de tout élément incorporé sont les gens de la sunna et du regroupement, qui comptent parmi eux les véridiques, les vertueux. Il y a parmi eux les guides éminents et les flambeaux qui illuminent les ténèbres, ayant à leur actif des actions mémorables, notoires et possédant des qualités réputées. Il y a parmi eux ce qu'on appelle Al-Abdal. On compte parmi eux les imams de la religion, à propos desquels les musulmans sont unanimes à dire qu'ils sont sur le droit chemin. Ils forment le groupe victorieux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté attaché à la vérité et victorieux. Ceux qui les contrediront ou les lâcheront, les abandonneront, les trahiront. Ne leur nuiront pas. » Non. Ceux qui les contrediront ou les abandonneront ne leur nuiront pas, et ce jusqu'à la fin des temps. Nous prions Allah qu'il nous compte parmi eux, qu'il ne fasse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés, et qu'il nous prodigue de sa miséricorde, lui qui est l'incessant donateur. Qu'Allah accorde sa miséricorde au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et qu'il les salue abondamment. Il a donc conclu en appuyant sur le fait que la voie qu'ils suivent, ces gens-là qu'il a appelé le groupe sauvé, c'est la voie de l'islam. La voie de l'islam, la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces gens-là ont appliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses ordres de suivre la sunna. Et les gens se sont divisés dans la communauté. Et eux sont restés accrochés à cette voie. C'est pour cette raison qu'ils ont obtenu ces mérites et cette place élevée chez Allah. Il y a parmi eux les véridiques, il y a parmi eux les pieux, il y a parmi eux les savants de l'islam, il y a parmi eux les grands adorateurs d'Allah, il y a parmi eux ceux qui ont appelé à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que s'achève l'étude de ce livre bénéfique appelé Al-Aqidatu Al-Wasitiyya, écrit par le noble imam, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, suite à la question et à la demande du juge de la ville de Wasit, qui s'appelait Radiyuddin Al-Wasitiyya, rahimahullah, qui est venu le voir et lui a dit « Les troubles se sont propagés chez nous à Wasit, nous voudrions que tu nous expliques quelle est la croyance des gens de la sunna. » Et après avoir refusé, Wasiti a insisté, Cheikh al-Islam a répondu à sa demande. Il a écrit ce livre que nous avons étudié en 37 cours, en une assise après la prière du Asr, avec un stylo, une plume, et il a écrit ce livre que l'on a étudié en 37 cours. Qu'Allah Azzawajal lui fasse miséricorde, qu'il illumine sa tombe et qu'il l'élargisse, tout comme nous lui demandons de récompenser les savants qui ont expliqué et de qui nous avons profité dans ce livre, tels que le savant Al-Allama Muhammad Aman Al-Jami, rahimahullah ta'ala, qui est un imam dans l'Aqida parmi les contemporains, et le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala wa shafahullah, wa barakallahu fikum. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et on demande à Allah تبارك وتعالى par ses assises et par ces temps que l'on a passé de nous rapprocher de lui, de pardonner nos péchés, de guider nos cœurs et de nous faire atteindre le mois de Ramadan qui est proche en bonne santé et avec une foi et nous permettre d'accomplir son jeûne et d'en prier les nuits. Jazakumullahu khairan wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad.